L'Odyssée, chant neuvième. Et le subtil Odysseus lui répondant, parla ainsi. Roi Alcinoos, le plus illustre de tout le peuple, il est doux d'écouter un Aoïde tel que celui-ci, semblable au dieu par la voix. Je ne pense pas que rien soit plus agréable. La joie saisit tout ce peuple, et tes convives, assis en rang dans ta demeure, écoute l'Aoïde. Et les tables sont chargées de pain et de chair, et les chansons, puisant le vin dans le cratère, en remplit les coupes et les distribue. Il m'est très doux dans l'âme de voir cela. Mais tu veux que je dise mes douleurs lamentables, et je n'en serai que plus affligée. Que dirais-je d'abord? Comment continuer? Comment finir? Car les dieux uraniens m'ont accablé de maux innombrables. Et maintenant, je dirai d'abord mon nom, afin que vous le sachiez et me connaissiez, et qu'ayant évité la cruelle mort, je sois votre hôte, bien qu'habitant une demeure lointaine. Je suis Odysseus Laertiade, et tous les hommes me connaissent par mes ruses, et ma gloire est allée jusqu'à l'Ouranos. J'habite la très illustre Ithaque, où se trouve le mont Eritos, aux arbres battus des vents, et plusieurs autres îles sont autour et voisines, Doulichios et Samée, et Zakynthos couverte de forêts. Et Ithaque est la plus éloignée de la terre ferme et sort de la mer du côté de la nuit, mais les autres sont du côté d'Éos ou de Hélios. Elle est âpre, mais bonne nourrice de jeunes hommes, et il n'est point d'autre terre qu'il me soit plus doux de contempler. Certes, la noble déesse Calypso m'a retenue dans ses grottes profondes, me désirant pour mari, et de même Circé, pleine de ruses, m'a retenue dans sa demeure, en l'île d'Ayaïe, me voulant aussi pour mari. Mais elles n'ont point persuadé mon cœur dans ma poitrine, tant rien n'est plus doux que la patrie et les parents, pour celui qui, loin des siens, habite même une riche demeure dans une terre étrangère. Mais je te raconterai le retour lamentable que me fit Zeus à mon départ de Troie. D'Ilios, le vent me poussa chez les Kikones, à Ismaros. Là, je dévastai la ville et j'en tuai les habitants. Et les femmes et les abondantes dépouilles enlevées furent partagées, et nul ne partit privé par moi d'une part égale. Alors, j'ordonnai de fuir d'un pied rapide, mais les insensés n'obéirent pas. Et ils buvaient beaucoup de vin, et ils égorgeaient sur le rivage les brebis et les benoirs aux pieds flexibles. Et pendant ce temps, des Kikones fugitifs avaient appelé d'autres Kikones, leurs voisins, qui habitaient l'intérieur des terres. Et ceux-ci étaient nombreux et braves, aussi habiles à combattre sur des chars qu'à pied quand il le fallait. Et ils vinrent aussitôt vers le matin, en aussi grand nombre que les feuilles et les fleurs printanières. Alors la mauvaise destinée de Zeus nous accabla, malheureux, afin que nous subissions mille maux. Et ils nous combattirent auprès de nos nefs rapides, et des deux côtés, nous nous frappions de nos lances d'airain. Tant que dura le matin, et que la lumière sacrée grandit, malgré leur multitude, le combat fut soutenu par nous. Mais quand Ilios marqua le moment de délier les bœufs, les Kikones domptèrent les Achéens. Et 6 de mes compagnons au bel Cnémide furent tués par Nef, et les autres échappèrent à la mort et à la guerre. Et nous naviguions loin de là, joyeux d'avoir évité la mort, et tristes dans le cœur d'avoir perdu nos chers compagnons. Et mes nefs armés d'aviron des deux côtés ne s'éloignèrent pas avant que nous eussions appelé 3 fois chacun de nos compagnons, tués sur la plage par les Kikones. Et Zeus qui amasse les nuées souleva Boréas et une grande tempête, et il enveloppa de nuées la terre et la mer, et la nuit se rua de l'Ouranos. Et les nefs étaient emportés hors de leur route, et la force du vent déchira les voiles en 3 ou 4 morceaux. Et craignant la mort, nous les serrâmes dans les nefs. Et celles-ci, avec de grands efforts, furent tirées sur le rivage, où pendant 2 nuits et 2 jours, nous restâmes gisants, accablés de fatigue et de douleur. Mais quand Théos aux beaux cheveux amena le troisième jour, ayant dressé les mâts et déployé les blanches voiles, nous nous assîmes sur les bancs, et le vent et les pilotes nous conduisirent, et je serais arrivé sain et sauf dans la terre de la patrie, si la mer et le courant du cap Maléien et Boréas ne m'avaient porté par-delà Kythéré. Et nous fûmes entraînés pendant 9 jours par les vents contraires sur la mer poissonneuse. Mais le 10e jour, nous abordâmes la terre des lotophages qui se nourrissent d'une fleur. Là, étant montés sur le rivage et ayant puisé de l'eau, mes compagnons prirent leur repas auprès des nefs rapides. Alors je choisis 2 de mes compagnons, et le 3e fut un héros, et je les envoyai, afin d'apprendre quels étaient les hommes qui vivaient sur cette terre. Et ceux-là étant partis, rencontrèrent les lotophages. Et les lotophages ne leur firent aucun mal, mais ils leur offrirent le lotos à manger. Et dès qu'ils eurent mangé le doux lotos, ils ne songèrent plus ni à leur message ni au retour. Mais pleins d'oubli, ils voulaient rester avec les lotophages et manger du lotos. Et les reconduisant aux nefs, malgré leurs larmes, je les attachai sous les bancs des nefs creuses. Et j'ordonnai à mes chers compagnons de se hâter de monter dans nos nefs rapides, de peur qu'en mangeant le lotos, ils oubliassent le retour. Et ils y montèrent. Et s'asseyant en ordre sur les bancs de rameurs, ils frappèrent de leurs avirons la blanche mer, et nous naviguâmes encore, tristes dans le cœur. Et nous parvînmes à la terre des cyclopes orgueilleux et sans loi, qui, confiant dans les dieux immortels, ne plantent point de leurs mains et ne labourent point. Mais n'étant ni semés ni cultivés, toutes les plantes croissent pour eux, le froment et l'orge, et les vignes qui leur donnent le vin de leurs grandes grappes que font croître les pluies de Zeus. Et les agoras ne leur sont point connues, ni les coutumes, et ils habitent le faîte des hautes montagnes dans de profondes cavernes, et chacun d'eux gouverne sa femme et ses enfants sans nul souci des autres. Une petite île est devant le port de la terre des Cyclopes, ni proche ni éloignée. Elle est couverte de forêts, où se multiplient les chèvres sauvages, et la présence des hommes ne les a jamais effrayés, car les chasseurs qui supportent les douleurs dans les bois et les fatigues sur le sommet des montagnes ne parcourent point cette île. On n'y fait point paître de troupeaux, et on n'y laboure point, mais elle n'est ni ensemencée ni labourée. Elle manque d'habitants, et elle ne nourrit que des chèvres bêlantes. En effet, les cyclopes n'ont point de nefs peintes en rouge, et ils n'ont point de constructeurs de nefs à bancs de rameurs qui les portent vers les villes des hommes, comme ceux-ci traversent la mer les uns vers les autres, afin que sur ces nefs ils puissent venir habiter cette île. Mais celle-ci n'est pas stérile, et elle produirait toutes choses selon les saisons. Il y a de molles prairies arrosées sur le bord de la blanche mer, et des vignes y croient très abondamment. Et cette terre donnerait facilement des moissons, car elle est très grasse. Son port est sûr, et on n'y a besoin ni de cordes, ni d'ancre jetée, ni de lier des câbles. Et les marins peuvent y rester aussi longtemps que leur âme le désire, et attendre le vent. Au fond du port, une source limpide coule sous une grotte, et l'aune croît autour. C'est là que nous fûmes poussés, et un dieu nous y conduisit pendant une nuit obscure, car nous ne pouvions rien voir. Et un épais brouillard enveloppait les nefs, et Sélénée ne luisait point dans l'Ouranos, étant couverte de nuages. Et aucun de nous ne vit l'île de ses yeux, ni les grandes lames qui roulaient vers le rivage, avant que nos nefs au banc de rameurs n'y eussent abordé. Alors nous serrâmes toutes les voiles, et nous descendîmes sur le rivage de la mer. Puis nous étant endormis, nous attendîmes la divine Éos. Quand Éos, aux doigts rosés, né au matin, apparut, admirant l'île, nous la parcourûmes. Et les nymphes, filles de Zeus tempétueux, firent lever les chèvres montagnardes, afin que mes compagnons puissent faire leur repas. Et aussitôt, on retira des nefs les arcs recourbés et les lances à longues pointes d'airain, et divisés en 3 corps, nous lançâmes nos traits, et un dieu nous donna une chasse abondante. 12 nefs me suivaient, et à chacune le sort accorda 9 chèvres et 10 à la mienne. Ainsi, tout le jour, jusqu'à la chute de Hélios, nous mangeâmes assis les chairs abondantes et nous bûmes le vin rouge. Mais il en restait encore dans les nombreuses amphores que nous avions enlevées de la citadelle sacrée des Kikones. Et nous apercevions la fumée sur la terre prochaine des cyclopes, et nous entendions leur voix, celle des brebis et des chèvres. Et quand Hélios tomba, la nuit survint, et nous nous endormîmes sur le rivage de la mer. Et quand Théos aux doigts rosés, né au matin, apparut, ayant convoqué l'agora, je dis à tous mes compagnons, « Restez ici, mes chers compagnons. Moi, avec ma nef et mes rameurs, j'irai voir quels sont ces hommes, s'ils sont injurieux, sauvages et injustes, ou s'ils sont hospitaliers et craignant les dieux. » Ayant ainsi parlé, je montai sur ma nef, et j'ordonnai à mes compagnons d'y monter et de détacher le câble. Et ils montèrent, et assis en ordre sur les bancs de rameurs, ils frappèrent la blanche mer de leurs avirons. Quand nous fûmes parvenus à cette terre prochaine, nous vîmes à son extrémité une haute caverne ombragée de lauriers, près de la mer. Et là reposaient de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. Auprès, il y avait un enclos pavé de pierres taillées et entouré de grands pins et de chênes aux feuillages élevés. Là habitait un homme géant qui seul et loin de tous menait paître ses troupeaux et ne se mêlait point aux autres, mais vivait à l'écart, faisant le mal. Et c'était un monstre prodigieux, non semblable à un homme qui mange le pain, mais au faîte boisé d'une haute montagne, qui se dresse seul au milieu des autres sommets. Alors, j'ordonnai à mes chers compagnons de rester auprès de la nef et de la garder. Et j'en choisis 12 des plus braves, et je partis, emportant une outre de peau de chèvre, pleine d'un doux vin noir que m'avait donné Maron, fils de Antéos, sacrificateur d'Apollon, et qui habitait Ismaros, parce que nous l'avions épargné avec sa femme et ses enfants, par respect. Et il habitait dans le bois sacré de Phoibos Apollon. Il me fit de beaux présents, car il me donna 7 talents d'or bien travaillés, un cratère d'argent massif, et dans 12 amphores, un vin doux, pur et divin, qui n'était connu dans sa demeure ni de ses serviteurs, ni de ses servantes, mais de lui seul, de sa femme et de l'intendante. Toutes les fois qu'on buvait ce doux vin rouge, on y mêlait pour une coupe pleine 20 mesures d'eau, et son arôme parfumait encore le cratère, et il eût été dur de s'en abstenir. Et j'emportai une grande outre pleine de ce vin, et des vivres dans un sac, car mon âme courageuse m'excitait à m'approcher de cet homme géant, doué d'une grande force, sauvage, ne connaissant ni la justice ni les lois. Et nous arrivâmes rapidement à son antre, sans l'y trouver, car il paissait ses troupeaux dans les gras pâturages. Et nous entrâmes, admirant tout ce qu'on voyait là. Les clés étaient chargées de fromage, et les étables étaient pleines d'agneaux et de chevreaux, et ceux-ci étaient renfermés en ordre et séparés, les plus jeunes d'un côté et les nouveau-nés de l'autre. Et tous les vases à traire étaient pleins, dans lesquels la crème flottait sur le petit lait. Et mes compagnons me suppliaient d'enlever les fromages et de retourner, en chassant rapidement vers la nef les agneaux et les chevreaux hors des étables, et de fuir sur l'eau salée. Et je ne le voulus point. Et certes, cela eût été le plus sage, mais je désirais voir cet homme, afin qu'il me fît les présents hospitaliers. Bientôt, sa vue ne devait pas être agréable à mes compagnons. Alors, ranimant le feu et mangeant les fromages, nous l'attendîmes assis, et il revint du pâturage, et il portait un vaste monceau de bois sec, afin de préparer son repas, et il le jeta à l'entrée de la caverne, avec retentissement. Et nous nous cachâmes, épouvantés, dans le fond de l'antre. Et il poussa dans la caverne large tous ceux de ses gras troupeaux qu'il devait traire, laissant dehors les mâles, béliers et boucs, dans le haut enclos. puis soulevant un énorme bloc de pierre, si lourd que 22 chars solides, à 4 roues, n'auraient pu le remuer, il le mit en place. Telle était la pierre immense qu'il plaça contre la porte. Puis s'asseyant, il commença de traire les brebis et les chèvres bêlantes, comme il convenait, et il mit les petits sous chacune d'elles. Et il fit cailler aussitôt la moitié du lait blanc, qu'il déposa dans des corbeilles tressées, et il versa l'autre moitié dans les vases, afin de la boire en mangeant, et qu'elle lui servît pendant son repas. Et quand il eut achevé tout ce travail à la hâte, il alluma le feu, nous aperçut et nous dit « Ô étranger, qui êtes-vous? D'où venez-vous sur la mer? Est-ce pour un trafic? Ou errez-vous sans but comme des pirates qui vagabondent sur la mer, exposant leurs âmes au danger et portant les calamités aux autres hommes ?» Il parla ainsi, et notre cher cœur fut épouvanté au son de la voix du monstre et à sa vue. Mais lui répondant ainsi, je dis « Nous sommes des Achéens venus de Troie, et nous errons entraînés par tous les vents sur les vastes flots de la mer, cherchant notre demeure par des routes et des chemins inconnus. Ainsi Zeus l'a voulu. Et nous nous glorifions d'être les guerriers de l'Atréide Agamemnon, dont la gloire, certes, est la plus grande sous l'Ouranos. En effet, il a renversé une vaste ville et dompté des peuples nombreux. Et nous nous prosternons en suppliant à tes genoux pour que tu nous sois hospitalier et que tu nous fasses les présents qu'on a coutume de faire à des hôtes. Ô excellent, respecte les dieux, car nous sommes tes suppliants. Et Zeus est le vengeur des suppliants et des étrangers dignes d'être reçus comme des hôtes vénérables. » Je parlais ainsi, et il me répondit avec un cœur farouche. « Tu es insensé, ô étranger, et tu viens de loin, toi qui m'ordonnes de craindre les dieux et de me soumettre à eux. Les cyclopes ne se soucient point de Zeus tempétueux, ni des dieux heureux, car nous sommes plus forts qu'eux. Pour éviter la colère de Zeus, je n'épargnerai ni toi ni tes compagnons, à moins que mon âme ne me l'ordonne. Mais dis-moi, où as-tu laissé pour venir ici ta nef bien construite ? Est-ce loin ou près ? Que je le sache. » Il parla ainsi, me tentant, mais il ne put me tromper, car je savais beaucoup de choses, et je lui répondis ces paroles rusées. « Poséidon qui ébranle la terre, a brisé ma nef, poussé contre les rochers d'un promontoire, à l'extrémité de votre terre, et le vent l'a jeté hors de la mer, et avec ceci, j'ai échappé à la mort. » Je parlais ainsi, et dans son cœur farouche, il ne me répondit rien. Mais en se ruant, il étendit les mains sur mes compagnons, et il en saisit deux, et il les écrasa contre terre comme des petits chiens. Et leur cervelle jaillit et coula sur la terre. Et les coupant membre à membre, il prépara son repas, et il les dévora comme un lion montagnard. Et il ne laissa ni leurs entrailles, ni leur chair, ni leurs os pleins de moelle. Et nous, en gémissant, nous levions nos mains vers Zeus, en face de cette chose affreuse, et le désespoir envahit notre âme. Quand le cyclope eut empli son vaste ventre, en mangeant les chairs humaines, et en buvant du lait sans mesure, il s'endormit étendu au milieu de l'antre, parmi ses troupeaux. Et je voulus dans mon cœur magnanime, tirant mon épée aiguë de la gaine et me jetant sur lui, le frapper à la poitrine, là où les entrailles entourent le foie. Mais une autre pensée me retint. En effet, nous aurions péri de même d'une mort affreuse, car nous n'aurions pu mouvoir de nos mains le lourd rocher qu'il avait placé devant la haute entrée. C'est pourquoi nous attendîmes en gémissant la divine Eos. Quand Eos, aux doigts rosés, né au matin, apparut, il alluma le feu et se mit à traire ses illustres troupeaux, et il plaça les petits sous les mers. Puis ayant achevé tout ce travail à la hâte, il saisit de nouveau deux de mes compagnons et prépara son repas. Et dès qu'il eut mangé, écartant sans peine la grande pierre, il poussa hors de l'antre ses gras troupeaux, et il remit le rocher en place, comme le couvercle d'un carquois. et il mena avec beaucoup de bruit ses gras troupeaux sur la montagne. Et je restai, méditant une action terrible, et cherchant comment je me vengerai, et comment Athénée exaucerait mon vœu. Et ce dessein me sembla le meilleur dans mon esprit. La grande massue du cyclope gisait au milieu de l'enclos, un olivier vert qu'il avait coupé, afin de s'y appuyer quand il serait sec. Et ce tronc nous semblait tel qu'un mât de nef de charge à 20 avirons qui fend les vastes flots. Telle c'était sa longueur et son épaisseur. J'en coupai environ une brasse, que je donnai à mes compagnons, leur ordonnant de les carrir. Et ils les carrirent, et je taillai le bout de l'épieu en pointe, et je le passai dans le feu ardent pour le durcir. Puis je le cachai sous le fumier, qui était abondamment répandu dans toute la caverne, et j'ordonnai à mes compagnons de tirer au sort ceux qui le soulèveraient avec moi, pour l'enfoncer dans l'œil du cyclope, quand le doux sommeil l'aurait saisi. Ils tirèrent au sort, qui marqua ceux-mêmes que j'aurais voulu prendre. Et ils étaient quatre, et j'étais le cinquième, car ils m'avaient choisi. Le soir, le cyclope revint, ramenant ses troupeaux du pâturage. Et aussitôt, il les poussa tous dans la vaste caverne, et il n'en laissa rien dans l'enclos, soit par défiance, soit qu'un dieu le voulût ainsi. Puis il plaça l'énorme pierre devant l'entrée, et s'étant assis, il se mit à traire les brebis et les chèvres bêlantes. Puis il mit les petits sous leur mère. Ayant achevé tout ce travail à la hâte, il saisit de nouveau deux de mes compagnons et prépara son repas. Alors, tenant dans mes mains une coupe de vin noir, je m'approchai du cyclope et lui dis « Cyclope, prends et bois ce vin après avoir mangé des chairs humaines, afin de savoir quel breuvage renfermait notre nef. Je t'en rapporterai de nouveau, si me prenant en pitié, tu me renvoyais dans ma demeure. Mais tu es furieux, comme on ne peut l'être davantage. Insensé, comment un seul des hommes innombrables pourra-t-il t'approcher désormais, puisque tu manques d'équité ? Je parlai ainsi, et il prit et but plein de joie. Puis ayant bu le doux breuvage, il m'en demanda de nouveau. « Donne-moi encore, cher, et dis-moi promptement ton nom, afin que je te fasse un présent hospitalier dont tu te réjouisses. La terre féconde rapporte aussi au cyclope un vin généreux, et les pluies de Zeus font croître nos vignes. Mais celui-ci est fait de nectar et d'ambroisie. » Il parla ainsi, et de nouveau je lui donnai ce vin ardent, et je lui en offris trois fois, et trois fois il le but dans sa démence. Mais dès que le vin eut troublé son esprit, alors je lui parlai ainsi en paroles flatteuses. « Cyclope, tu me demandes mon nom illustre, je te le dirai, et tu me feras le présent hospitalier que tu m'as promis. Mon nom est Personne. Mon père et ma mère, et tous mes compagnons me nomment Personne. » Je parlai ainsi, et dans son âme farouche, il me répondit. Je mangerai personne après tous ses compagnons, tous les autres avant lui. Ceci sera le présent hospitalier que je te ferai. Il parla ainsi, et il tomba à la renverse, et il gisait, courbant son cou monstrueux, et le sommeil qui dompte tout le saisit, et de sa gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine, et il vomissait ainsi, plein de vin. Aussitôt, je mis les pieux sous la cendre pour l'échauffer, et je rassurai mes compagnons, afin qu'épouvantés, ils ne m'abandonnassent pas. Puis comme les pieux d'olivier, bien que verts, allaient s'enflammer dans le feu, car ils brûlaient violemment, alors je le retirai du feu. Et mes compagnons étaient autour de moi, et un démon nous inspira un grand courage. Ayant saisi les pieux d'olivier aigus par le bout, ils l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope, et moi, appuyant dessus, je le tournai, comme un constructeur de nef troue le bois avec une tarière, tandis que ses compagnons la fixent des deux côtés avec une courroie, et qu'elle tourne sans s'arrêter. Ainsi, nous tournions les pieux enflammés dans son œil, et le sang chaud en jaillissait, et la vapeur de sa pupille ardente brûla ses paupières et son sourcil, et les racines de l'œil frémissaient, comme lorsqu'un forgeron plonge une grande hache ou une doloire dans l'eau froide, et qu'elle crie stridente, ce qui donne la force au fer. Ainsi son œil faisait un bruit strident autour de l'épieu d'Olivier, et il hurla horriblement, et les rochers en retentirent, et nous nous enfuîmes épouvantés, et il arracha de son œil l'épieu souillé de beaucoup de sang, et plein de douleur, il le rejeta. Alors, à haute voix, il appela les cyclopes qui habitaient autour de lui les cavernes des promontoires battues des vents. Et entendant sa voix, ils accoururent de tous côtés, et debout autour de l'antre, ils lui demandaient pourquoi il se plaignait. « Pourquoi, Polyphémos, pousses-tu de telles clameurs dans la nuit divine, et nous réveilles-tu ? Souffres-tu ? Quelque mortel a-t-il enlevé tes brebis ? Quelqu'un veut-il te tuer, par force ou par ruse ?» Et le robuste Polyphémos leur répondit du fond de son antre. « Ô ami, qui me tue par ruse et non par force ? Personne !» Et ils lui répondirent en paroles ailées. « Certes, nul ne peut te faire violence, puisque tu es seul. On ne peut échapper aux maux qu'envoie le grand Zeus. Supplie ton père, le roi Poséidon. » Ils parlèrent ainsi et s'en allèrent. Et mon cher cœur rit, parce que mon nom les avait trompés, ainsi que ma ruse irréprochable. Mais le cyclope, gémissant et plein de douleur, tâtant avec les mains, enleva le rocher de la porte, et s'asseyant là, étendit les bras, afin de saisir ceux de nous qui voudraient sortir avec les brebis. Il pensait, certes, que j'étais insensé. Aussitôt, je songeai à ce qu'il y avait de mieux à faire pour sauver mes compagnons et moi-même de la mort. Et je méditais ces ruses et ce dessein, car il s'agissait de la vie, et un grand danger nous menaçait. Et ce dessein me parut le meilleur dans mon esprit. Les mâles des brebis étaient forts et laineux, beaux et grands, et ils avaient une laine de couleur violette. Je les attachai par trois, avec de l'osier tordu, sur lequel dormait le cyclope monstrueux et féroce. Celui du milieu portait un homme, et les deux autres de chaque côté cachaient mes compagnons. Et il y avait un bélier le plus grand de tous. J'embrassai son dos, suspendu sous son ventre, et je saisis fortement de mes mains sa laine très épaisse, dans un esprit patient. Et c'est ainsi qu'en gémissant, nous attendîmes la divine Éos. Et quand Éos aux doigts rosés, né au matin, apparut, alors le cyclope poussa les mâles des troupeaux au pâturage, et les femelles bêlaient dans les étables, car ils n'avaient plus les traire, et leurs mamelles étaient lourdes. Et lui, accablé de douleur, tâtait le dos de tous les béliers qui passaient devant lui. Et l'insensé ne s'apercevait point que mes compagnons étaient liés sous le ventre des béliers laineux. Et celui qui me portait dans sa laine épaisse, alourdi, sortit le dernier, tandis que je roulais mille pensées. Et le robuste Polyphémos, le tâtant, lui dit « Bélier paresseux, pourquoi sors-tu le dernier de tous de mon antre ? Auparavant, jamais tu ne restais derrière avec les autres, mais le premier, tu paissais les tendres fleurs de l'herbe, et le premier, marchant avec fierté, tu arrivais au cours des fleuves, et le premier le soir, tu rentrais à l'enclos. Maintenant, te voici le dernier. » « Regrettes-tu l'œil de ton maître, qu'un méchant homme a arraché, à l'aide de ses misérables compagnons, après m'avoir dompté l'âme par le vin ? Personne qui n'échappera pas, je pense, à la mort. Plutôt Dieu, que tu puisses entendre, parler, et me dire où il se dérobe à ma force. Aussitôt sa cervelle écrasée coulerait çà et là dans la caverne, et mon cœur se consolerait des maux que m'a fait ce misérable personne. » Ayant ainsi parlé, il laissa sortir le bélier. À peine éloigné de peu d'espace de l'antre et de l'enclos, je quittai le premier le bélier, et je détachai mes compagnons, et nous poussâmes promptement hors de leur chemin les troupeaux chargés de graisse, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à notre nef. Et nos chers compagnons nous revirent, nous du moins, qui avions échappé à la mort, et ils nous regrettaient. Aussi ils gémissaient et ils pleuraient les autres, mais par un froncement de sourcils, je leur défendis de pleurer, et j'ordonnai de pousser promptement les troupeaux laineux dans la nef, et de fendre l'eau salée. Et aussitôt ils s'embarquèrent, et s'asseyant en ordre sur les bancs des rameurs, ils frappèrent la blanche mer de leurs avirons. Mais quand nous fûmes éloignés de la distance où porte la voix, alors je dis au Cyclope ces paroles outrageantes. « Cyclope, tu n'as pas mangé dans ta caverne creuse, avec une grande violence, les compagnons d'un homme sans courage, et le châtiment devait te frapper, malheureux, toi qui n'as pas craint de manger tes hôtes dans ta demeure. C'est pourquoi Zeus et les autres dieux t'ont châtié. » Je parlais ainsi, et il entra aussitôt dans une plus violente fureur, et arrachant la cime d'une grande montagne, il la lança, et elle tomba devant notre nef à noire proue, et l'extrémité de la poupe manqua à être brisée, et la mer nous inonda sous la chute de ce rocher, qui la fit refluer vers le rivage, et le flot nous remporta jusqu'à toucher le bord. Mais saisissant un long pieu, je repoussai la nef du rivage, et d'un signe de tête, j'ordonnai à mes compagnons d'agiter les avirons, afin d'échapper à la mort, et ils se courbèrent sur les avirons. Quand nous nous fûmes une seconde fois éloignés à la même distance, je voulus encore parler au Cyclope, et tous mes compagnons s'y opposaient par des paroles suppliantes. « Malheureux, pourquoi veux-tu irriter cet homme sauvage ? Déjà, en jetant ce rocher dans la mer, il a ramené notre nef contre terre, où certes, nous devions périr. Et s'il entend tes paroles ou le son de ta voix, il pourra briser nos têtes et notre nef sous un autre rocher qu'il lancera, tant sa force est grande. » Il parlait ainsi, mais ils ne persuadèrent point mon cœur magnanime, et je lui parlai de nouveau injurieusement. « Cyclope, si quelqu'un parmi les hommes mortels t'interroge sur la perte honteuse de ton œil, dis-lui qu'il a été arraché par le dévastateur de citadelle, Odysseus, fils de Laertès, et qui habite dans Ithaque. » Je parlais ainsi, et il me répondit en gémissant. « Ô Dieu, voici que les anciennes prédictions qu'on m'a faites se sont accomplies. Il y avait ici un excellent et grand divinateur, Télémos Eurymide, qui l'emportait sur tous dans la divination, et qui vieillit en prophétisant au milieu des cyclopes. Et il me dit que toutes ces choses s'accompliraient, qui me sont arrivées, et que je serais privé de la vue par Odysseus. Et je pensais que ce serait un homme grand et beau, qui viendrait ici, revêtu d'une immense force. Et c'est un homme de rien, petit et sans courage, qui m'a privé de mon œil, après m'avoir dompté avec du vin. Viens ici, Odysseus, afin que je te fasse les présents de l'hospitalité. Je demanderai à l'illustre qui ébranle la terre de te reconduire. Je suis son fils, et il se glorifie d'être mon père, et il me guérira s'il le veut, et non quelque autre des dieux immortels ou des hommes mortels. » Il parla ainsi, et je lui répondis. « Plutôt Dieu que je t'eusse arraché l'âme et la vie, et envoyé dans la demeure d'Hédès, aussi sûrement que celui qui ébranle la terre ne guérira point ton œil. » Je parlais ainsi, et aussitôt, il supplia le roi Poséidon, en étendant les mains vers l'Ouranos étoilé. « Entends-moi, Poséidon aux cheveux bleus qui contient la terre, si je suis ton fils, et si tu te glorifies d'être mon père, fais que le dévastateur de citadelle, Odysseus, fils de Laertès, et qui habite dans Ithaque, ne retourne jamais dans sa patrie. Mais si sa destinée est de revoir ses amis, et de rentrer dans sa demeure bien construite, et dans la terre de sa patrie, qu'il n'y parvienne que tardivement, après avoir perdu tous ses compagnons, et sur une nef étrangère, et qu'il souffre encore en arrivant dans sa demeure. » Il pria ainsi, et l'illustre aux cheveux bleus l'entendit. Puis il souleva un plus lourd rocher, et le faisant tourner, il le jeta avec une immense force, et il tomba à l'arrière de la nef à la proue bleue, manquant d'atteindre l'extrémité du gouvernail, et la mer se souleva sous le coup, mais le flot cette fois emporta la nef et la poussa vers l'île, et nous parvînmes bientôt là où étaient les autres nefs à bancs de rameurs. Et nos compagnons y étaient assis, pleurant et nous attendant toujours. Ayant abordé, nous tirâmes la nef sur le sable et nous descendîmes sur le rivage de la mer. Et nous partageâmes les troupeaux du cyclope après les avoir retirés de la nef creuse. Et nul ne fut privé d'une part égale. Et mes compagnons me donnèrent le bélier, outre ma part, et après le partage. Et l'ayant sacrifié sur le rivage à Zeus Cronide, qui amasse les noires nuées et qui commande à tous, je brûlai ses cuisses. Mais Zeus ne reçut point mon sacrifice, mais plutôt, il songeait à perdre toutes mes nefs à bancs de rameurs et tous mes chers compagnons. Et nous nous reposâmes là tout le jour, jusqu'à la chute de Hélios, mangeant les chairs abondantes et buvant le doux vin. Et quand Hélios tomba et que les ombres survinrent, nous dormîmes sur le rivage de la mer. Et quand Eos aux doigts rosés, né au matin, apparut, je commandai à mes compagnons de s'embarquer et de détacher les câbles. Et aussitôt ils s'embarquèrent, et s'asseyant en ordre sur les bancs, ils frappèrent la blanche mer de leurs avirons. Et de là, nous naviguâmes, tristes dans le cœur, bien que joyeux d'avoir échappé à la mort, car nous avions perdu nos chers compagnons.